Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce microphone, Nanit Talani. En Afrique francophone, plus de 20 260 femmes malades du cancer du sein ont été identifiées et environ 11 150 décès ont été enregistrés en 2012. Selon les projections faites pour 2030, cette région africaine pourrait connaître 35 nouveaux cas et 20 000 décès. Ces femmes ont-elles accès au traitement pour contrer leur maladie? Quelles sont les chances de guérison d'un cancer du sein? Comment vivre l'après-traitement? Comment minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme?
Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins long.
Ce sont les questions auxquelles répondra notre invité, le professeur Jean-Bernard Kouambon, chef du service de cancérologie au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien Ngouabi au Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Maintenant, nous vous proposons d'écouter notre discussion avec le professeur Jean-Bernard Kouambon. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie de notre sujet sur le cancer du sein chez la femme. Comment vivre avec le cancer du sein et aussi quelles sont les précautions que les femmes peuvent prendre. Nous allons commencer avec les questions de Jean Bosco Muyombo Tikala, Mathieu Kalombo, Baxon Badibanga Baguma, Guillaume Mongo et Mathieu Kalombo qui nous écrivent depuis la RDC pour savoir quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour prévenir ou peut-être pour minimiser l'apparition du cancer du sein chez la femme. Depuis la RDC, ils veulent savoir quelles sont les mesures qui peuvent permettre de prévenir un cancer du sein.
On ne peut pas prévenir un cancer du sein malheureusement. On ne peut que le détecter très tôt. Le cancer du sein, ce n'est pas comme le cancer du col de l'utérus, où on sait que c'est un cancer virulent induit par un virus qui s'appelle HPV, le papillomavirus, ou à travers une colposcopie suivie de tests IVA-IVL, ou bien simplement un frottis, on peut mettre en évidence les lésions précancéreuses et les traiter. Là, on peut faire. Mais au niveau du sein, malheureusement, on ne peut pas prévenir. Il faut être attentif pour le détecter très très tôt et le prendre en charge très tôt. Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins long, et qu'on ait des chances de guérison. Mais c'est un cancer pour lequel il n'y a pas de prévention à observer.
Est-ce qu'une femme atteinte d'un cancer peut tomber enceinte ou elle peut allaiter?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Tant que la femme est en activité sexuelle, il n'y a pas de raison qu'elle ne tombe pas enceinte, bien sûr.
Le cancer n'affecte pas la qualité du lait qu'elle doit donner à son bébé?
Il faut faire attention. Quand la femme est sous traitement d'un cancer du sein et qu'elle allait, il faut qu'elle arrête d'allaitement parce que les médicaments passent dans le lait maternel et peuvent aller induire des problèmes au niveau de l'enfant. Donc il est conseillé à toute femme porteuse d'un cancer du sein de ne pas allaiter son enfant.
Quels sont les risques d'un cancer du sein qui n'est pas traité ou qui est négligé?
Un cancer du sein qui n'est pas traité court le risque de voir la maladie s'étendre d'abord sur le plan local régional et puis donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases. Et si le traitement n'est pas apporté ou assuré, mais le décès interviendra assez rapidement.
Qu'est-ce que ces métastases peuvent causer dans le corps de la femme qui a un cancer du sein non traité?
Les métastases sont une conséquence de l'évolution de la maladie qui n'est pas traitée. Encore que la maladie peut être traitée et échapper au traitement et donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases.
Est-ce que les traitements du cancer du sein sont tous sans risque ou il y a des effets secondaires?
Les traitements des cancers du sein sont des traitements comme on traite les autres maladies, il y a toujours des effets secondaires. Maintenant, ces effets secondaires peuvent être mineurs, comme ils peuvent être modérés, comme ils peuvent être majeurs. Mais quand ça ne tienne, les équipes médicales ont été formées pour anticiper, pour identifier et éventuellement pour les traiter. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés intellectuellement pour apporter des réponses à ce genre d'effets secondaires.
Quels sont les principaux risques auxquels sont exposées les femmes qui souffrent d'un cancer du sein?
Le risque pour lequel on est souvent confronté ici en Afrique, c'est le lymphœdème, c'est-à-dire que le gros bras. Vous voyez qu'une femme qui a eu une mammectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles, il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras peut être très très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la paroi thoracique. En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça finit par régresser avec le temps.
Oui, il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein. Est-ce que ces cheveux vont repousser?
Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les quatre réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de quatre réfrigérants, on observe que la plupart des dames qui prennent des médicaments qu'on appelle des anthracyclines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. C'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça ne va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
Alphonse Mouaki, depuis la RDC, s'inquiète du coût des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement?
Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons d'énormes problèmes de prise en charge. Donc, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service là-bas à Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite, la radiothérapie est gratuite, mais ça c'est pour les Maliens.
Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements?
Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais il m'arrive d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, ça dit que vous ne pouvez même plus accéder au bilan, parce que le bilan, ce sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essaient de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades-là. Donc, pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou des ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer?
L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc on a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants, mais qu'on peut utiliser dans un cas bien précis. Donc, pour me résumer, le traitement est payant. Il n'est pas seulement payant pour les malades en cancérologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez aussi des cancers hématologiques. Les lymphomes sont gérés par nos amis hématologues.
Et ça complique la lutte contre le cancer du sein, notamment si la malade n'a pas les moyens de se payer un traitement.
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut que l'Union africaine prenne une résolution où on doit imposer à tous nos pays la construction des centres anticancéreux. Il n'est pas normal au 21e siècle, dans des pays modernes comme les nôtres, que les malades atteints de cancer soient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à la limite même inhumain, ça. Il faut qu'on s'organise à prendre en charge, parce que le cancer, madame, c'est pas le paludisme. Hein. Quand on vous annonce bien sûr du cancer, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la vie de toute une famille qui se bouscule.
À qui devrait revenir la responsabilité d'appuyer financièrement ces malades abandonnés à elles-mêmes?
Il revient à l'État parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de cancer. Donc, il y a moyen de prendre en charge ces cancers-là. Vous savez, à Brazzaville, moi, je suis en train d'entreprendre. Nous formons des oncologues. Quand ils retournent chez eux, ils font la promotion de la problématique du cancer et on leur construit des centres anticancéreux. Donc, l'idéal serait qu'à Brazzaville, qu'on nous construise des centres anticancéreux où nous pouvons traiter de façon efficace et en régie nos malades à nous.
Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse?
Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez porteur d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein?
Et les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir 7 cancers sur 10 avec l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses grands pas, avec l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein ne se traite plus de la même façon. Si nous sommes deux à avoir un cancer du sein, selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas traité de la même façon. Donc, non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal soit qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer va basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu du cancer.
Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation de ce sein, mais d'autres pas?
Tout dépend du stade de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises pour faire l'ablation du sein. Si vous avez un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne répond pas à une chirurgie minimaliste comme une tumorectomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bah, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus de curage schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles.
Oumarou Zada Massaoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
Je ne vais pas ostraciser les tradis thérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous, en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier le plus souvent, c'est l'oncle que je suis, c'est le papa que je suis, et on va voir ces tradis thérapeutes-là. Moi, je n'ai pas vu un tradis thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein, et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas? Il ne faut pas fermer la porte.
Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer de sein peut s'estimer être guérie?
Oh, mais disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus de signe, vous êtes en rémission complète, vous pouvez estimer que vous êtes guéri.
En parlant de récidive, Guillaume Omonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez traité le cancer du sein, que vos cellules rentrent en phase caissante, comme on le dit, donc ils ne bougent plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
Et c'est au cas par cas, mais ce n'est pas chez toutes les femmes.
Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir du cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancers du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein?
La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr, il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein?
Au niveau de Brazzaville, il commence à avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Et c'est bien que des dames qui ont été guéries d'un cancer du sein se montrent à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le traitement.
Est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
À l'époque, on fantasmait même sur la pilule, parce que quand vous prenez la pilule, vous prenez, ce sont des hormones que vous prenez. On pensait que la pilule pouvait induire un cancer du sein. Cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il faut rester tranquille, il faut s'observer.
Il y en a qui veulent savoir si à la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de voir un cancer est élevée. Donc, on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
Léo-Émile Kankonde, depuis le Kasaï central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein.
Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des affections extrêmement complexe. C'est-à-dire que la manière dont on est un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent. Mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il a un stade très avancé, devenu une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants.
Quelles innovations pourrait-il y avoir?
chacun aura son traitement. Si vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit pendant l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous aurons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
Donc professeur, il y a Alfred Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. L'allaitement est un facteur protecteur. Parce que quand vous allaitez, ça veut dire que vous avez amené votre sein à maturation. C'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore surpeuplée. On a besoin d'enfants.
Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein.
Ah oui, 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 bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos sœurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu condescendant qu'on a entendu, où on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On entendait un discours comme ça, je ne peux pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler?
Alors, la première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, qu'on fasse une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse pour dire que comme je n'ai pas mal, je peux aller voir mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit « Je vais vous enlever la boule comme ça », refusez ça. Vous dire non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe? C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
Professeur, pour terminer, nous savons que le cancer de sein, ce n'est pas un problème qui concerne seulement le malade, mais aussi les pouvoirs publics, la famille, les médecins et tout. Mais quelle peut être la contribution de toute la communauté pour lutter efficacement contre le cancer du sein?
La réponse à cette question, c'est la solidarité. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Parce que quand quelqu'un souffre d'un cancer du sein, c'est tout son environnement familial qui est bousculé. Si vous avez votre épouse qui a un cancer du sein, même votre travail peut prendre un coup, les enfants à la maison sont désarticulés parce que maman n'est plus là, c'est vraiment un problème. Donc on a besoin du soutien de tout le monde. Et comme c'est une maladie dont la prise en charge est chère, elle est onéreuse, il faut que les parents, en attendant que nos gouvernements ou nos États prennent en charge de façon optimale cette pathologie, et que si les gens peuvent apporter un peu d'argent pour aider les autres, c'est une bonne chose. N'attendons pas que les gens décèdent pour aller acheter des cercueils tout coûte cher et trouver les meilleurs caveaux pour aller les ensevelir. Non, c'est prenant que les gens sont malades, que vous devez être là, vous devez les encourager, vous devez les motiver, vous devez même les pousser à aller faire du sport. Vous savez que le sport contribue même à restaurer l'immunité, donc à lutter contre ce cancer-là. Et vous pouvez même apporter de la musique, parce que la musique aussi peut contribuer à améliorer l'évolution de la maladie. Ça va réduire un peu le stress. Bon, en définitive, le mot que je retiens, il y a deux mots, empathie et puis solidarité.
Okay. Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
Oh, madame, c'est moi qui vous remercie.
De suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie Ngouabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans Carnet de santé, une recrudescence des cas de choléra dans le monde suscite l'inquiétude des experts. Le HCR demande un soutien international pour lutter contre la maladie virulente parmi les réfugiés. Ensuite, avez-vous des problèmes avec les boutons de rasage? Nous aurons quelques conseils d'experts.
Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est une maladie extrêmement virulente qui provoque la déshydratation, une diarrhée aiguë et peut entraîner la mort. Après des années de déclin, le choléra est un fléau en recrudescence dans plusieurs pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. Maladie très contagieuse, touchant aussi bien les enfants que les adultes, elle est provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille vibrio choléré ou vibrion cholérique. Selon les statistiques, il y a environ 1,3 à 4 millions de cas de choléra chaque année et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie. L'OMS affirme que la mise à disposition d'eau salubre et des services d'assainissement est primordiale pour lutter contre la transmission du choléra et d'autres maladies à transmission hydrique. Face à l'augmentation sans précédent des cas de choléra dans le monde cette année, le groupe international de coordination, l'organisme qui gère les distributions d'urgence des vaccins, a ajusté la stratégie vaccinale pour cause de pénurie mondiale de vaccins contre la maladie. Suivons ce récit de Rosine Munezero.
Le Kenya est l'un des derniers pays à avoir signalé une épidémie de choléra. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré au moins 61 cas dans 6 régions, y compris dont la capitale Nairobi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis janvier de cette année, au moins 29 pays ont signalé des épidémies, dont 13 pays qui n'en avaient pas connu l'année dernière. Et au cours des 5 années précédentes, moins de 20 pays en moyenne. Selon les experts, les cas de choléra ont augmenté dans le monde entier cette année, en particulier dans les zones de pauvreté et de conflit.
Avec le changement climatique et le réchauffement de certains cours d'eau et deltas dans le monde, nous voyons que les bactéries peuvent se multiplier beaucoup plus rapidement et c'est pourquoi nous avons des épidémies beaucoup plus importantes dans certains endroits du monde. Et je pense que c'est pour cela qu'il est si important, premièrement, de considérer le choléra comme un problème mondial, parce qu'avec le changement climatique, nous savons que d'autres endroits peuvent devenir des sortes de lieux endémiques pour le choléra. Et deuxièmement, parce qu'il est très important de comprendre que si nous pouvons prévenir une épidémie dans les endroits où le choléra est dans l'environnement, nous aurons un bien meilleur contrôle sur le risque.
Le choléra est une infection diarrhéique aiguë qui peut entraîner une déshydratation mortelle. Il se propage par l'ingestion d'aliments ou d'eau infectée par la bactérie Vibrio cholera. Selon les autorités sanitaires du Cameroun, plusieurs centaines de cas de choléra ont été détectés à la frontière nord du pays avec le Nigeria et au moins 17 personnes en sont mortes. Au Malawi, une épidémie qui s'est propagée dans 22 districts a tué plus de 100 personnes. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à l'aggravation de l'épidémie en Haïti, avec plus de 600 cas suspects ou confirmés dans les environs de la capitale, Port-au-Prince. La maladie a aussi infecté et tué des personnes dans des pays comme la Syrie et le Liban. Avec les épidémies de choléra dans le monde, l'OMS a signalé une pénurie de doses de vaccins contre le choléra, ce qui a obligé à passer temporairement à une stratégie à doses uniques.
Depuis 2013, l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge gèrent conjointement un stock mondial de vaccins contre le choléra pour aider à contrôler les épidémies. Cependant, la vague actuelle d'épidémie exerce une pression sans précédent sur ce stock. En conséquence, les quatre agences ont décidé de suspendre la stratégie à deux doses en faveur d'une stratégie à une dose afin que davantage de personnes bénéficient d'une certaine protection grâce au stock limité. La stratégie à une dose s'est avérée efficace lors des précédentes épidémies, bien que les preuves de la durée de la protection soient limitées. Cependant, cette stratégie est clairement loin d'être idéale et le rationnement ne doit être qu'une solution temporaire.
L'OMS indique que quelques millions de doses de vaccins sont disponibles pour être utilisées avant la fin de cette année, en partie à cause d'une pénurie de fabricants.
Le docteur Shamsuddin Abdullahi est médecin à l'hôpital national d'Abuja au Nigeria. Il nous en dit plus sur le choléra et partage certaines stratégies pour combattre l'épidémie.
Il s'agit d'une infection bactérienne aiguë causée par des bactéries qui provoque une maladie diarrhéique aiguë. Sa période d'incubation est très courte, ce qui la rend très contagieuse. Elle peut se manifester dans les 12 heures suivant le contact. Donc, de 12 heures à 5 jours, en moyenne, 1 à 2 jours. Une autre raison pour laquelle elle est si contagieuse est qu'elle possède certains matériaux génétiques qui lui permettent de se fixer aux cellules intestinales et donc de se répliquer par millions. Et lorsqu'elle se réplique dans l'intestin, elle peut être excrétée et d'autres personnes peuvent l'attraper, peut-être par contact avec vous ou par contact avec les excréments. Elle se dépose généralement dans l'eau, la nourriture, et maintenant, nous avons tellement d'inondations. Par exemple, cela se produit ici maintenant, au Pakistan et dans d'autres pays qui connaissent des inondations. On trouve le choléra aussi plus souvent dans les zones en crise, comme les camps de déplacés ou les bidonvilles. Cette période épidémique qui, je pense, a débuté début septembre et s'est terminée le 1er octobre, nous attendons la prochaine publication des données officielles, mais à chaque fois, les données ont montré une augmentation d'environ 42% par rapport au mois précédent, ce qui signifie que de nouveaux cas se déclarent, peut-être à cause des inondations et de tout cela. Quand cela se produit, l'identification précoce est la clé. Identifier comment il se manifeste, puis aller au laboratoire pour le diagnostic afin de confirmer si c'est le choléra ou pas. Ensuite, un traitement intensif avec des perfusions intraveineuses. Il existe une solution appelée solution DACA qui est spécifiquement conçue pour les patients atteints de choléra. Mais en l'absence de cette solution, la plus courante qui est toujours disponible est le lactate de Ranger. Vous pouvez également administrer un antibiotique puis une solution de réhydratation orale. Si vous administrez des perfusions énergiques, un antibiotique et une solution de réhydratation orale, la maladie peut être contrôlée. Ensuite, pour ce qui est de la prévention, il faut assurer un approvisionnement sûr en eau à la communauté. Et l'hygiène personnelle fait partie de la prévention. Une autre chose très importante est le vaccin. Je pense qu'il y a environ 3 vaccins disponibles aujourd'hui contre le choléra. Normalement, il faut au moins 2 doses pour qu'ils soient efficaces. Cependant, il y a des vaccins pour lesquels, en octobre 2022, l'organisation responsable de la distribution a conclu qu'ils pouvaient être administrés en une seule dose et qu'il était efficace. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, en cas de catastrophe comme celui-ci, si vous ne pouvez pas accéder à de l'eau potable, vous pouvez la faire bouillir ou y ajouter du chlore pour tuer les bactéries présentes dans l'eau.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a demandé un soutien international pour lutter contre l'épidémie de choléra parmi les réfugiés au Cameroun. Le HCR a affirmé que jusqu'à 250 000 dollars américains sont nécessaires pour accroître l'accès à l'eau potable, améliorer la gestion des déchets dans le camp et répondre à d'autres besoins urgents. Je me suis entretenue avec Olivier Béer, représentant du HCR au Cameroun.
C'est une épidémie qui frappe un peu tout le district de Mokolo et même d'autres parties de l'extrême nord, et probablement parce que les puits, les endroits où les gens vont boire sont infectés à cause des inondations et d'un mauvais assainissement. Et le camp de réfugiés qui se trouve dans le district de Mokolo, dans la région de l'extrême nord, a évidemment également été affecté. L'UNICEF a en ce moment des difficultés à pouvoir vacciner toute la population. Vous savez qu'il y a des endroits aussi où on n'a pas pu construire assez de latrines. Dans le camp de réfugiés, il y a un manque de 900 latrines. Pourquoi? Parce que les financements du HCR n'ont pas bougé. En ce moment, nous avons désinfecté 9 édifices pour le moment et plus de 2000 abris sur 3000 aidés ont été également désinfectés. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais si vous diminuez de 2 doses à 1, mais en même temps, vous mettez en place tout un système d'eau et d'assainissement, de désinfection, d'accès à une eau potable, d'accès à des intrants, d'accès au personnel de santé, parce qu'on a aussi une insuffisance du personnel de santé, si toutes les autres conditions sont réunies, alors oui, on peut avoir une seule dose. On a besoin d'écoles propres, on a besoin de services de santé disponibles et efficaces, on a besoin de personnel de santé, etc. Donc c'est une communauté d'efforts.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon pour discuter des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie Ngouabi en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Vasco Valarich. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.